Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 13 septembre 2021, il est 18h à Bamako, même heure à Sékou, dans la cité des Balanzans. Vous qui nous suivez en ce moment, bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Insécurité au centre, des déplacements massifs de populations sont signalés dans une dizaine de villages de la région de Ségou. Ces populations ont fui sous la menace des groupes djihadistes. Le Premier ministre a renouvelé ce matin sa volonté de lutter contre l'enrichissement illicite. Plus de 1266 milliards de francs CFA ont été dilapidés en moins de 15 ans par cette pratique, selon le président de l'OCLI. Belle entrée du FC Binga, club de deuxième division en Coupe de la Confédération africaine de football. L'équipe a dominé samedi dernier le MC Brewery de Libéria en match aller. À la présentation de ce journal, Adama Madouidara. Plusieurs villages du cercle de Massina et Djabali se vident de leur population depuis quelques jours. Face à la menace des présumés djihadistes, centaines d'habitants des villages se déplacent vers d'autres localités. Pendant ce temps, les attaques contre les populations civiles et militaires se poursuivent au sud, au centre et au nord du pays. Ces violences ont fait au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés. Le point avec Fatia Tara.
Ces déplacements massifs des populations sont signalés à Bouyagiwere, Bewani, Pondasaba, Manijé, Nanzambougou, Zanakoro et Mokon, tous des villages de la région de Ségou. Des populations estimées à plus de 1000 personnes, des femmes, des enfants et des vieilles personnes en majorité. La situation reste précaire dans la zone où des présumés djihadistes et des milices de chasseurs s'affrontent régulièrement. Dans la même zone, des convois de l'armée malienne sont tombés dans une embuscade ce dimanche entre Manijé et Kolongo, cercle des Massina. Les bilans selon les autorités militaires est de 5 morts, 5 véhicules brûlés du côté de Fama ainsi que 3 morts et 3 véhicules détruits côté assaillant. Au même moment, des routiers marocains ont été en Nara et plus de 4 personnes dont un policier ont été blessés par des hommes en armes. Selon des sources locales, ces hommes armés seraient venus de la forêt de Ntobala entre Kita, Djijeni et Djema.
Dans le cercle de Youarou, plusieurs villages restent sous la menace de présumés djihadistes qui imposent la loi islamique ou charia. Population et élus communaux lancent un cri de cœur face à une situation intenable et compliquée. Des élus communaux invitent le gouvernement à entamer des pourparlers avec ces terroristes, seule option pour ramener la paix. Écoutons la réaction d'une autorité de l'une de ces localités où ces groupes djihadistes imposent la charia.
C'est dur pour la population. Il s'agit notamment de couper les pantalons, faire pousser les barbes, empêcher aux jeunes là d'avoir leur maison à l'accès à la rue, tout ça. Là, c'est des mesures très difficiles. Mais vraiment, c'est vraiment pénible pour la population. Mais ce que je demande, ce n'est pas avec les armes qu'on peut arrêter ça, mais plutôt avec la négociation. Négociation au très haut niveau. Bon, les populations à la base sont en train de négocier en leur cohabitation. Mais si l'État aussi ne s'implique pas par rapport aux négociations, bon, ça ne fait que perdurer.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les Maliens sur l'ensemble du territoire ont aujourd'hui soif de sécurité et de justice et cela ne se fera que si l'État prend en main la lutte contre la corruption et l'impunité. La déclaration a été faite ce matin par le Premier ministre lors de sa visite à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Chogelko Kalamega a rappelé que la refondation du pays passe par la lutte contre les crimes financiers. Les précisions avec Dramon Meiga.
Pour le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, la mauvaise gestion des services publics continue de causer d'importants préjudices au Mali. Moumouni Guindo affirme que les fonds dilapidés en moins de 20 ans suffisent pour construire plus de 1700 centres de santé de référence à travers le pays.
De 2005 à 2019, plus de 1266 milliards de francs CFA sont ressortis comme étant les conséquences financières des actions de mauvaise gestion dans certains services publics du Mali. Tous les secteurs sont affectés. Nous avons d'ores et déjà transmis à la justice près de 10 dossiers.
C'est pourquoi le Premier ministre de la Transition a assuré que la lutte contre l'enrichissement illicite entamé va se poursuivre. Pour Chogelko Kalamega, les défis restent énormes dans la lutte contre la corruption.
Nous considérons qu'il faut engager de façon résolue la lutte contre la corruption. Qu'il n'y ait aucun doute sur la détermination du gouvernement à soutenir toutes les institutions impliquées impliqués dans la chaîne de lutte contre l'impunité.
Pour rappel, le dernier rapport en date de Transparency International classe le Mali 129e pays sur 179 le moins corrompu au monde.
Les débats sur la tenue des élections et la prolongation du délai de la transition continuent, alors que certains politologues s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle prorogation de la transition. Des membres de la société civile estiment que celle-ci est une demande du peuple, donc sans conséquences. Le reportage de Sali Sissoko.
Pour le politologue Boubacar Boukoum, pour prolonger la transition, il faut des arguments solides et un contenu riche pour convaincre et s'assumer devant le peuple malien et la communauté internationale.
Tous les actes que nous posons ont des conséquences, mais est-ce que nous sommes prêts à les assumer? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on propose en termes de contenu de la prolongation? Pourquoi on veut réellement prolonger? Est-ce que les mobiles sont objectifs ou bien subjectifs? Donc je pense que c'est sur la base d'éléments concrets que la communauté et même la classe politique nationale va accepter en réalité.
Du côté de la société civile, on estime qu'il n'y a aucune inquiétude à prolonger les délais de la transition si cela est fait dans l'intérêt du pays et du peuple malien. Adama Traoré, président de la coordination des associations de la société civile.
Si ça se prolonge, ça ne concerne pas un gouvernement, ça ne concerne pas un ministère, ça concerne le peuple malien. Nous estimons que si ça se fait, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, nous, société civile, on ne va pas permettre à qui que ce soit d'aller à une élection quelconque tant qu'il n'y a pas la paix dans notre pays.
La CEDEAO reste assez pendant catégorique sur le respect du délai de la transition. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale l'ont rappelé le mercredi lors d'un sommet extraordinaire.
Infosport FC Binga, club de deuxième division, fait une belle entrée en Coupe de Confédération africaine de football. L'équipe de la commune 5 du district de Bamako s'est largement imposée au match aller face à MC Brewery de Liberia. C'était samedi dernier au stade Modibo Keïta de Bamako. Le parcours de l'équipe avec Oumarou Igalo.
C'est en mai dernier que le club de 2e division FC Binga a créé une surprise générale devant le monde sportif. Les hommes d'Aldjuma Yatara ont fait 3 matchs, 3 victoires. Ils ont battu respectivement les Rouges de Bamako, Djoli Baassé, l'AS Bakaridjan, l'ISE Kita. C'est ainsi que le club de la commune 5 s'est retrouvé en finale de la Coupe du Mali face au stade malien de Bamako. Ils ont été battus sur le score 3-2. FC Binga, finaliste de la Coupe du Mali, représente donc les pays pour sa première fois sur le plan international. Le club de 2e division a reçu son premier match à l'heure des préliminaires de la Coupe de la Confédération. FC Binga a battu MC Breverus de Liberia 3-0 le samedi dernier. Le retour est prévu pour ce week-end à Monrovia. Les buts de l'équipe de la commune 4 ont été marqués par Siaka Djabi, Youssoufi Maïga et Youssouf Koulibaly. Par ailleurs, en Ligue des Champions africaines, le stade malien de Bamako s'est imposé à l'extérieur 1-0 face à l'AS Sonabel du Burkina Faso.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Les échos de nos régions, faut-il redéfinir la démocratie au Mali? C'est le thème d'une rencontre organisée samedi dernier à Kay. Elle avait pour objectif de favoriser une dynamique de citoyenneté active et de promotion d'une démocratie participative. Elle est organisée par Trejeu de Mali à travers le projet d'appui pour l'accès à la justice et au droit en partenariat avec la Jeune Chambre internationale de Kay. L'activité est financée par le National Endowment for Democracy. Elle a réuni les professionnels du droit, la société civile et les groupements de femmes et jeunes. À Mopti s'est tenue la semaine dernière une rencontre sous le thème « La médiation, la prévention et la gestion non violente des conflits communautaires ». Plus de 100 participants, dont des administrateurs, des jeunes et des femmes venues des cercles de Ténénkou et de Yuaru, ont participé à la rencontre. L'objectif était de trouver des voies et moyens pour asseoir un climat d'entente entre les communautés, mais aussi de prévenir et de gérer les conflits au sein des communautés. La rencontre était organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire et financée par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Elle a duré 3 jours. Nous accueillons à présent Imirana Kilumega pour le Grand Dialogue. Bonsoir Imirana, vous allez parler de quoi aujourd'hui?
Bonsoir Adama Amadou Haïdara, nous allons parler de l'insécurité. La situation dépasse-t-elle les autorités? Pour cela, nous avons 3 invités. Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel. Boubacar Boukoum, spécialiste du développement et de la coopération transfrontalière. Madame Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires.
Bon débat et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter à tout moment toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Le 22 septembre 1960, les pères fondateurs du Mali proclamaient l'indépendance. Dans une dizaine de jours, le pays va célébrer le 60e anniversaire de cette accession à la souveraineté nationale et internationale. Comment cette date a été choisie? Qu'est-ce qui a inspiré les pères de l'indépendance à la proclamer ce jour? Que représentait la date du 22 septembre dans l'histoire du Mali? Notre reporter Mamadou Samassikou s'est entretenu avec Djadje Yacouba Danyogo, historien et ancien ministre de la Culture. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de notre série de productions sur le 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali.
Il faut d'abord faire remarquer que l'histoire nationale du Mali n'est toujours pas écrite. L'histoire qu'on nous enseigne, dont nous disposons, est celle que l'ancien colonisateur nous a laissée. Parmi ces événements, il faut citer l'éclatement de la Fédération du Mali, qui regroupait deux États, le Sénégal et le Soudan à l'époque. Le rêve de l'unité ne s'est pas réalisé à la hauteur des attentes des peuples soudanais et sénégalais. C'est au sortir donc de ce triste constat-là que la décision a été prise de proclamer l'indépendance de la République du Soudan sous le nom de République du Mali.
Comment ce choix a-t-il été fait et comment a-t-il été validé?
Nous savons que le président Modibo Keïta, au cours de sa longue détention, a rédigé ses mémoires. Peut-être que si on avait ces mémoires-là, il y aurait eu des indications sur les raisons de ce choix. Puisque c'était un instituteur, un homme qui connaissait parfaitement l'histoire de son pays.
C'est qui a proposé cette date?
Pour être franc, pour être honnête, parce qu'un chercheur doit être d'une honnêteté intellectuelle sans faille, il n'y a pas de source écrite. Il n'y a pas de lettres, pas d'instructions écrites, d'arrêtés, de décrets dans les archives nationales disant que voilà, telle commission a planché sur un travail consistant à chercher une date.
Qu'est-ce que cette date représentait dans l'histoire du Mali?
La date du 22 septembre 1878 correspond à une grande bataille qui a opposé les troupes de l'armée d'invasion coloniale française à l'armée du roi Nyamodi Sissoko, le roi du royaume du Logo, dont la capitale était Sabusire. Cette bataille, bien entendu, s'est soldée par la défaite du royaume du Logo, mais elle marque aussi, puisque le verrou que constituait Sabusire ayant sauté, elle marque le début de la colonisation du territoire du Soudan. Et donc, président Modibo Keïta et ses compagnons se sont certainement souvenus de ce haut fait de notre histoire. La bataille de Sabusire a eu lieu un dimanche, le 22 septembre 1878, de 8h du matin jusqu'à 12h. La proclamation de la République du Mali a été faite à 11h27 précises.
Est-ce qu'il y avait d'autres propositions de date?
Bon, ça, je ne saurais l'affirmer, hein. Mais il est certain qu'il y a dû en avoir. Mais comme je l'ai dit, en l'absence de sources écrites, on ne peut que émettre des hypothèses.